qui ont été faits, vous mettez en place la notion de libre concurrence, non pas entre les individus, mais entre les ethnies. C'est-à-dire, vous introduisez la démocratie ethnique et la liberté de concurrence. Évidemment, les ethnies compactes les plus fortes, les Allemands de Souabe, les Hongrois de tel endroit, etc., vont profiter de cette situation, récupérer la manne financière européenne et se débarrasser des ethnies plus faibles. Et donc, les Roms qui se trouvaient concentrés dans les centres industriels abandonnés ont été laissés pour compte de la transition, alors que des Hongrois de Transylvanie, mais des Roumains de tel autre endroit, des Souabes de tel autre, et ainsi de suite, récupéraient l'argent européen. L'Europe trouve que c'est pas bien, qu'il faut que ces Roms, qui sont effectivement soumis à des conditions économiques épouvantables et qui représentent 6 à 11% des pays que l'on appelle les PECO, c'est-à-dire de ceux qui sont entrés en Europe à partir de 2005, la Roumanie, la Hongrie, la Bulgarie, eh bien, il faut les faire sortir de cette situation spécifique. Et l'Europe invente la notion de minorité transnationale. Au lieu d'imposer à chaque État un partage des responsabilités sur l'existence même d'une subordination d'une partie de leur population soumise à une discrimination juridique héritée du communisme et qui n'avait jamais été supprimée, celle de la Tsiganska Politika, on en rajoute une couche en disant il faudra une politique séparée à l'égard des Roms au nom du fait qu'ils sont une minorité européenne transnationale. Et sur les 14 milliards d'euros qui ont été donnés par l'Europe et qui viennent de notre poche, en direction des PECO pour soi-disant se mettre à niveau, 771 millions d'euros ont été consacrés dans les fonds structurels à destination de la politique d'émancipation des Roms. Bien entendu, elle est passée par les gouvernements locaux, et ces gouvernements locaux n'ont jamais attribué le moindre copec, ou le moindre centime, ou le moindre euro à ces familles romanies. Mais elles les ont accusées d'être responsables d'un processus de favoritisme de la part des institutions européennes, à mesure qu'elles s'émancipaient de la tutelle européenne, pour effectivement mettre en place une politique, une ethnopolitique qui, à l'heure actuelle, est en train de virer au fascisme. La Hongrie, qui a été le laboratoire en 1993 du tout minoritaire, dans lequel 13 minorités autochtones, dont la Rome, qui était évidemment là depuis la nuit des temps, donc considérée comme autochtone, est devenue le laboratoire du fascisme postmoderne. Qu'est-ce que c'est le fascisme postmoderne européen ? C'est celui qui n'a pas besoin de parti unique, qui n'a pas besoin d'imposer un totalitarisme par en haut, parce que la société ethnicisée sécrète le totalitarisme par en bas.
La bassiste aussi, c'est sur France Inter.
On continue avec le diplôme de ce mois d'octobre avec Evelyne Pieler qui nous parle de Jean-Jacques Rousseau dont on célèbre le tricentenaire de la naissance en 1712. Le début du papier est assez vertigineux. Vous nous dites toutes les interprétations qui sont faites de Rousseau à travers tout un tas de pays, mais vraiment toute la planète. Et toutes les interprétations, ça va depuis Pol Pot jusqu'à Pétain, par exemple, qui ont trouvé chez Rousseau des sources d'inspiration et des références. Je pense qu'il y a très peu d'auteurs quand même, on parlait d'Orwell peut-être, mais enfin c'est pas la même ampleur, qui a été ainsi, qui a inspiré autant de monde.
Ouais, ça, c'est la chose peut-être la plus importante en réalité parce qu'elle est emblématique de ce que va apporter Rousseau. On pourrait penser que c'est un peu estompé, Rousseau. Si vous regardez là, ces histoires de centenaire, cette année, je trouve, ça a été un peu discret, m'a-t-il semblé. Je crois qu'on l'a quand même plutôt tiré du côté des arts et de Ah, c'est pas plus mal. La dernière fois qu'on l'a célébré, on l'a célébré comme inventeur de l'écologie, ce qui était vraiment très, très charmant.